Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce dernier numéro des paroles aux auditeurs de cette semaine. La deuxième édition de la conférence nationale sur les mines élargies au secteur des ressources naturelles en RDC s'est clôturée mardi dernier à Goma, au Nord Kivu. Le Premier ministre a avoué au cours de ses assises que jusque-là, l'exploitation des ressources naturelles en RDC n'apporte pas encore les revenus suffisants pour améliorer les conditions de vie des populations. Comment commentez-vous cet aveu du Premier ministre après celui du chef de l'État après la conférence des Lubumbashi? Que proposez-vous pour inverser la tendance? J.R. Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Guma Zangou. Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Et nous avons associé à cet échange à Monsieur Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, qui est avec nous en ligne fidèle. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
La deuxième édition de la conférence nationale sur les mines élargies au secteur des ressources naturelles en RDC s'est clôturée mardi dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu. Rappelons que la première édition avait eu lieu à Lubumbashi, dans le Katanga. Et le Premier ministre a avoué au cours de ses assises que jusque-là, l'exploitation des ressources naturelles en RDC n'apporte pas encore les revenus suffisants pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à inverser la tendance? C'est le partage avec vous dans cette émission. Vos points de vue et propositions sont les bienvenus. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons associé en direct de Goma, dans la province du Nord Kivu, M. Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Merci d'avoir accepté de partager ces sujets avec les auditeurs de Radio Capi. Avant peut-être d'entrer en profondeur, revenir sur les discours des uns et des autres, quelle est la particularité de cette conférence qui s'est tenue, cette deuxième conférence qui s'est tenue au Nord Kivu? Quelle est la note particulière de cette conférence?
Oui, merci beaucoup. Et je voudrais d'abord commencer par saluer tous les auditeurs de la Radio Capi. La particularité, c'est le choix même porté sur la ville de Goma, qui hier était le théâtre des affrontements entre les forces négatives et les forces du gouvernement. Que donc, pour moi, j'estime que le choix lui-même constitue une particularité parce que Goma a vibré au rythme d'un nouveau slogan, c'est-à-dire on parle des investissements, on parle des projections, on parle des perspectives. Et j'estime que ce choix-là constitue la particularité de cette conférence parce que j'ai vu des gens qui sont arrivés pour la première fois à Goma, même s'ils sont des Congolais, mais qui pensaient qu'on ne peut pas passer une nuit dans la ville de Goma. Et donc j'estime que l'image de Goma a été vendue davantage. On a cessé de parler de nous sous des thèmes comme capitale mondiale du viol, etc. Je crois que c'est important que les gens aient découvert la ville de Goma. Et plusieurs investisseurs d'ailleurs ont dit qu'ils viendront s'établir à Goma pour y commencer des activités. Et pour nous, c'est un grand avantage parce que ça va procurer de l'emploi aux jeunes gens qui sont chômeurs depuis de longues années.
Et maintenant, il y a ces constats du Premier ministre. Je crois que le chef de l'État avait aussi fait ces constats à Lubumbashi qu'il y a suffisamment. L'exploitation des ressources ne profite pas tellement, si on peut le dire directement, à la population en termes d'amélioration des conditions de vie, qu'il faudra encore beaucoup faire beaucoup d'efforts. Mais vous qui avez participé à cette conférence, quelles sont les causes? D'abord, le fait que l'exploitation ne profite pas assez à la population. Qu'est-ce que les conférenciers ont relevé comme cause de cette situation?
Oui, effectivement, cela a été relevé par tous les conférenciers et même le Premier ministre dans son mot a clairement indiqué que les ressources ne profitent pas effectivement à la population congolaise. La cause est simple, c'est que nous sommes appelés scandale géologique, mais nous ne connaissons pas nous-mêmes nos propres richesses. Ce sont les autres qui ont écrit sur nous que nous sommes un scandale, que nous avons autant de milliards de dollars dans les sous-sols, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas que représente le Katanga, que représente le Nord Kivu, que représente la province orientale, que représente chaque province. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va aborder la question des recommandations, il a été clairement indiqué qu'il faudra qu'on crée un service de géologie qui identifie effectivement les ressources naturelles de chaque province pour que nous soyons compétitifs dans les contrats que nous devrions signer avec les partenaires. Mm-hmm. Parce qu'on a constaté effectivement que la méconnaissance de nos richesses nous pousse à signer des mauvais contrats avec des partenaires parce qu'eux ont la connaissance de nos richesses plus que nous. Et comme nous avons des difficultés d'avoir des moyens financiers, nous nous précipitons des contrats pour peut-être gagner des petits montants qui alimentent nos budgets. Donc je crois que la cause majeure est la reconnaissance par nous-mêmes de nos propres richesses, ce qui fait que les autres profitent de cela pour devoir sauter sur des contrats qui ne sont plus.
Mais là, on a des petits soucis, monsieur le gouverneur, nous avons des petits soucis avec votre ligne téléphonique, on pourra aussi voir avec la réalisation s'il y a moyen d'améliorer. Alors, on a parlé de la méconnaissance de ces ressources, mais alors, sur le plan organisationnel de ce qui se fait déjà, si vous êtes avec nous, quelles sont les causes alors? Parce qu'il y a déjà quand même une exploitation qui s'est fait, il y a des services de l'État qui s'occupent de la gestion de l'exploitation de ces ressources. Alors, à ce niveau, quelles sont les causes, bien sûr, de ce non-profit? Voilà, comme
oui,
je
l'ai. Je peux dire. Je ne sais pas si vous m'entendez.
On vous suit avec assez de difficultés hein, sur votre ligne téléphonique.
Oui, j'étais en train de dire que la cause principale, c'est la connaissance par nous-mêmes de notre richesse. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a jamais disposé d'un service qui identifie clairement les richesses ou les ressources naturelles par province. Pour qu'on puisse évaluer, par exemple, les coûts que représentent les Katanga. Qu'est-ce que les Katanga coûtent au terme des richesses du sous-sol, au terme des richesses forestières, au terme des richesses pétrolières, au terme des richesses minières. Mm-hmm. Qu'est-ce que la province orientale coûte au terme de toutes ces richesses? Donc cette méconnaissance-là fait qu'effectivement, les richesses ne nous profitent pas parce que nous ne connaissons pas ce que nous devons produire pour être compétitifs sur le marché. Mm-hmm. Et cela a été identifié comme la cause principale de ce que vous avez décrit tout à l'heure.
Mais par rapport, comme je venais de vous poser cette question, c'est la cause principale, mais à côté de ça, il y a quand même une exploitation qui s'est fait déjà, mais à ces niveaux là où quand même des sociétés exploitent, que ce soit le pétrole, que ce soit les forêts, que ce soit même les richesses de sous-sol, il y a déjà ceux qui exploitent, il y a déjà des services de l'État qui s'occupent de ça, mais à ces niveaux là, quelles sont les faiblesses qui ont été relevées?
Oui, parmi les faiblesses qui ont été relevées, c'est que effectivement, les contrats ont été signés auparavant pour accorder beaucoup d'avantages aux sociétés étrangères. Mm-hmm. C'est-à-dire, lorsqu'une société active, par exemple, les 10 ans, sans relever quelque chose sur les bénéfices, vous permettre de s'implanter et pouvoir avoir pied sur le sol congolais. Et cela a été effectivement considéré comme une faiblesse parce que ne connaissant pas nos propres richesses, nous avons accordé trop d'avantages aux entreprises étrangères et on a constaté que ce sont les entreprises étrangères qui ont beaucoup plus tiré des dividendes de l'exploitation minière que le gouvernement congolais lui-même. Et c'est cela d'ailleurs qui a poussé à une autre recommandation pour dire que désormais, ces entreprises-là ne devraient plus faire la sous-traitance avec des entreprises étrangères, mais la sous-traitance devrait avoir lieu avec des entreprises congolaises pour créer une classe moyenne. Et cela a été considéré comme une des grandes faiblesses, le fait qu'une entreprise vient, il signe un contrat et on lui accorde 10, 15, 20 ans sans prélever un impôt sur les bénéfices qu'il réalise. Et pendant ces 10 ans-là, l'entreprise va emmagasiner, va amasser suffisamment de moyens sans que l'État congolais ne soit à même pouvoir prélever des dividendes pour alimenter le budget de l'État.
Voilà, on va revenir à vous. Peut-être, si possible, de voir avec la réalisation, on va avoir une deuxième ligne pour vous, pour permettre à ce que l'intervention soit plus claire, parce qu'avec cette ligne, on se rend compte qu'il y a des petits soucis. Alors, on va voir ensemble avec la réalisation s'il y a moyen de pouvoir trouver une deuxième ligne pour le gouverneur. Le temps aussi qu'on écoute les auditeurs, parce que nous avons Alphonse qui est à Arou, en province orientale. Papy est ici à Kinshasa. Je rappelle encore que la deuxième édition de la conférence nationale sur sur les mines élargies au secteur des ressources naturelles en RDC s'est clôturé mardi dernier à Goma, au Nord Kivu, et nous nous penchons sur cette conférence. Comment faire pour que l'exploitation de ces ressources puisse profiter à la population? Nous avons associé dans cette émission le gouverneur Julien Paluku, gouverneur bien sûr de la province du Nord Kivu, l'hôte de cette deuxième conférence. 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Alphonse, vous nous appelez des Arou en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et sans oublier les gouverneurs du Nord Kivu. Pierrot, par rapport à la thématique du jour, je suis de ceux qui pensent que la conférence de Goma qui était axée sur l'exploitation des ressources naturelles de la RDC vaut sa peine d'y être tenue pour deux raisons à mon avis. Premièrement, c'est pour évaluer ou faire l'état des lieux des ressources naturelles à l'est du pays après avoir délogé par exemple le M23 d'une partie du territoire national qui était jadis sous ses commandements. La deuxième raison est que ça pourra démontrer aux investisseurs nationaux ou étrangers que désormais l'État ressort son autorité sur ces ressources naturelles pouvant générer autant de devises pour son économie après une période de guerre à répétition qui s'est soldée par des pillages, de meurtres, de viols, de violences, etc. C'est ainsi qu'à l'issue de ces assises, le chef du gouvernement a tout de suite remarqué, après le président de la République, à la première conférence qui s'est tenue à Lubumbashi, comme vous l'avez rappelé, que les ressources naturelles ne sont pas à mesure d'améliorer le social du peuple congolais. Alors c'est, à mon avis, une interpellation pour les dirigeants de notre pays. Et cela me pousse à me poser la question de savoir à qui profitent réellement les ressources naturelles de la RDC et pourquoi. Donc à chacun de répondre. Et aussi longtemps que le peuple congolais se lamente, reste affamé, les enfants ne partent pas aux études au profit d'une classe sociale donnée en République démocratique du Congo, je crois que l'avenir de notre pays s'annonce sombre. Et beaucoup de citoyens, surtout les jeunes, risquent d'aller chercher la vie ailleurs où on peut gagner son pain malgré les difficultés à affronter. D'où, pour que les ressources naturelles améliorent les conditions sociales de notre pays, un pays qui est considéré comme paradis par les autres, mais un calvaire par nous Congolais, je suis tenté de dire que si nous respectons les contrats sociaux, si nous respectons les lois qui régissent les secteurs de ressources naturelles, si nous rémunérons les travailleurs conformément aux accords de Mboudi et régulièrement pour éviter la corruption ou la concussion, si nous accélérons le recrutement, la formation et l'affectation des inspecteurs patriotiques, honnêtes et consciencieux pour contrôler, suivre et évaluer les fonctionnaires affectés dans le secteur générateur de recettes publiques, si nous améliorons le climat des affaires pour attirer les investisseurs, si nous restaurons la paix, plutôt si nous restaurons l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en sanctionnant négativement les inciviques, c'est-à-dire les illégaux et même les détourneurs, mais aussi si nous encourageons les travailleurs honnêtes et justes, ce seront là les meilleures solutions, à mon avis, pour résoudre cette question.
Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alphonse. Voilà. Merci beaucoup, Alphonse. Vous avez dit, c'était très important que cette conférence se tienne à Goma. C'était d'abord pour faire l'état des lieux, hein, de ressources naturelles, mais vous avez aussi insisté sur le fait qu'il fallait quand même qu'il y ait cette confiance entre les investisseurs nationaux et étrangers sur l'instauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Mais par la mesure, les différentes mesures que vous avez proposées, vous pensez qu'il faut d'abord arriver au respect de lois et même que les entreprises qui exploitent déjà puissent respecter les contrats sociaux. Il faut améliorer les conditions sociales de ceux qui travaillent dans la supervision des activités minières dans notre pays. Il faut aussi améliorer le climat des affaires pourquoi pas passer par la restauration de la paix et aussi sanctionner positivement tous ceux qui travaillent pour le développement du secteur minier dans notre pays. Voilà autant de mesures que vous proposez pour que l'exploitation de ces ressources puisse profiter à la population. Merci beaucoup, Alphonse. Vous êtes à Arou, en province orientale. Papy, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Papy.
Vous avez suivi les propositions d'Alphonse pour que l'exploitation des ressources profite à la population. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait?
Oui, merci, monsieur le journaliste, une fois de plus pour la parole. J'ai suivi avec intérêt le gouverneur et mon prédécesseur. Et à ce qu'ils ont déjà dit, j'ajouterai seulement quelques éléments. À mon avis, monsieur le journaliste, il serait impérieux de revoir notre politique économique nationale et surtout internationale en matière de l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays, comme vient de le dire monsieur le gouverneur. Donc, on arrivera à cela quand on fera une identification concrète ou exacte de toutes les firmes étrangères qui œuvrent dans ce domaine dans notre pays. Et monsieur le gouverneur, qui est le représentant du gouvernement pendant cette émission ici, doit savoir que quand quiconque lutte ou s'engage à lutter pour telle ou telle cause doit toujours savoir qu'il y a toujours quelque chose à gagner et quelque chose à perdre. Deuxièmement, j'ajouterais qu'il faut aussi renforcer le système judiciaire, donc réformer notre système judiciaire, notre service de sécurité et notre administration fiscale, afin d'éviter, comme l'a dit le précédent, la corruption, l'impunité, le détournement et toutes sortes d'antivaleurs à ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays. Mmh. Troisièmement, monsieur le journaliste, il faut aussi réformer nos entreprises minières nationales et faisant une évaluation sur leur fonctionnement, laquelle évaluation permettra vraiment à identifier toutes les causes qui rendent non rentables nos entreprises minières. Et à mon avis, l'une des grandes stratégies pour rendre ces entreprises rentables, c'est le renforcement des capacités du personnel de toutes ces entreprises-là, à l'instar de ce que le président a déjà dit. Enfin, pour terminer, monsieur le journaliste, le contrôle parlementaire doit être aussi réel et effectif. De ce contrôle parlementaire, j'ajouterai même le contrôle de la Cour des comptes. Parce que vous savez que dans la majorité de ces entreprises minières, nous avons des comptables publics. Alors, ces comptables publics doivent rendre compte à l'État congolais par le biais de la Cour des comptes. En plus de cela, l'on doit aussi associer la population. Il faut renforcer le contrôle citoyen. La population doit s'associer à l'exploitation, doit être associée plutôt à l'exploitation des ressources naturelles et à son évaluation. Parce que vous savez, comme moi, monsieur le journaliste, que généralement, surtout en ce qui concerne les minéraux, toutes les populations qui vivent sur les terrains où on exploite les ressources minières là, restent souvent dans une pauvreté insupportable après cette exploitation. Mmh. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup, Papy de Kinshasa. Quatre propositions. Il faut réformer le système judiciaire. Vous avez d'abord insisté sur la révision de la politique économique de la RDC qui doit permettre d'identifier tous ceux qui exploitent dans le secteur minier. Il faut renforcer le système judiciaire, ce qui va permettre de lutter contre les anti-valeurs. Il faut aussi renforcer les entreprises nationales d'exploitation minière comme la MIBA, par exemple, et la Gécamines, en renforçant les capacités de ceux qui travaillent pour que ces entreprises puissent vraiment jouer le rôle qu'il faut. Mais il faut aussi assurer les contrôles parlementaires pour savoir comment fonctionne la Cour des comptes et tous ceux-là qui sont impliqués dans l'exploitation, mais pourquoi pas aussi associer la population locale. Les populations des lieux où les ressources sont exploitées, ils doivent être associés au projet d'exploitation des ressources dans leur milieu. Merci beaucoup, Papy. Nous allons écouter Ernest qui est à Matadi, dans la province du Bas-Congo. Ernest, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, J.R. Je salue aussi monsieur le gouverneur que nous admirons à distance.
Merci, Ernest Sepiro, qui est en ligne avec vous et notre invité. Vous avez suivi les uns et les autres. Tout le monde a ses soucis de voir l'exploitation des ressources naturelles profiter à la population, surtout là où vous êtes, par exemple. Et quelles sont les mesures qui doivent accompagner ces soucis de voir ces ressources profiter à la population?
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois qu'au niveau du Bas-Congo, il y a beaucoup d'années passées, on a vraiment assisté ici, à l'époque de son expérience, le gouverneur Lefèvre, Sassaline Toumba, Maman Miente et Ndom Nabote comme vice-gouverneur, l'organisation des conférences minières, même à l'époque de Bac, il y avait ce genre d'activité. Donc il y a une prise de confiance au niveau national et provincial pour être bénéficiaire de nos richesses naturelles et minières dans notre pays ici. Mais je ne suis pas d'accord avec le gouverneur lorsqu'il dit qu'il y a méconnaissance de nos richesses. Ce sont les autres qui nous disent que nous sommes scandales géologiques, pendant que nous avons des sociétés scientifiques. Les richesses minières du Congo sont enseignées depuis l'école primaire, depuis l'université, l'école secondaire. Mais je pense qu'il ne fallait pas qu'aujourd'hui que ce genre d'activité soit récupéré simplement par les politiques. Il faut associer les scientifiques. C'est à ce niveau qu'on peut savoir ce que nous avons réellement et que les étudiants à futur doivent connaître cela. Mais le gouvernement se présente en point de faiblesse par rapport aux autres bateliers. Ils disent que nous sommes scandales géologiques, et c'est ceux-mêmes qui expliquent, pendant que le gouvernement n'a pas de dividendes à récupérer, c'est une haute trahison pour la République et une grande perte. Donc, je pense que le gouvernement doit partager cette expérience, ce souci de rentabiliser notre richesse naturelle avec les sociétés scientifiques locales. Sinon, ça restera un dossier politique. Et vous savez qu'en Afrique, lorsqu'un régime tombe, ceux qui viennent ne s'occupent pas de ce que les autres ont fait. C'est pourquoi il faut donner, dépersonnaliser ce dossier pour que ce soit un dossier vraiment national pour l'intérêt du Congo. Voilà un peu de mots que je pensais dire.
Merci Ernest. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le gouverneur quand il dit que le grand problème, c'est le fait que nous puissions, nous avons la méconnaissance de nos ressources. Vous estimez que les Congolais connaissent suffisamment leurs ressources parce qu'on a des éminents scientifiques dans ces pays qui connaissent bien la cartographie de nos ressources. Mais le problème, c'est qu'il faudrait chaque fois associer les scientifiques et les techniciens dans les réflexions sur l'exploitation des ressources naturelles. Et si on les associe, ils peuvent bien dresser la cartographie de nos ressources. Mais quand on a ce souci, cette prise de conscience, cela peut être exploité pour profiter à la population. Merci beaucoup, Ernest. On va écouter Dr. Richard qui est ici à Kinshasa et après accorder la parole à notre invité pour compléter le point de vue des auditeurs et leurs propositions. Dr. Richard, vous êtes avec nous. Bonjour. Dr. Richard, bonjour. Dommage qu'on a perdu Dr. Richard, je crois bien. Nous allons tout à l'heure écouter. Et voilà, Dr. Richard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je suis avec vous. Bonjour.
Vous avez suivi les compatriotes qui sont passés avant, qui ont proposé des pistes et des solutions pour que l'exploitation des ressources puisse profiter à la population congolaise. Quel est votre point de vue?
Oui, ils ont bien parlé, mais de façon insuffisante, je les félicite. Alors, moi je dis à l'introduction, c'est un diagnostic tardif, dû à la mauvaise conduite des hommes politiques. Ils ont cassé le Congo jusqu'à aujourd'hui, au point que nous sommes étonnés qu'ils nous disent qu'ils ne savaient pas évaluer la valeur exacte de nos richesses. Ils nous ont paupérisé dans leurs querelles de tous les jours. Ça c'est un. Monsieur Julien Paloukou, que je salue, vient de le dire. Deuxièmement, nous nous posons la question, tous les services qui existent, les géologiques, quel travail ils ont fait au niveau de, si nous prenons le repère d'analyse, le 30 juin 1960, après le 30 juin, qu'est-ce que nous avons fait pour nous étonner 54 ans après? Donc, on est resté discret. Troisièmement, le système d'enseignement, qu'est-ce que ce système a fait? Souvent, je dis aux gens qui se moquent de moi, je dis, l'or, le diamant, les minerais du Congo, c'est pas pour le Congolais. Voici notre réflexe. Quand un Congolais a le diamant en main, il court vite vers le Libanais, vers l'Indien, vers l'Israélien. Ça signifie que lui-même ne sait pas que c'est sa richesse. Il ne sait même pas évoluer ça. Il n'y a pas d'école pour traiter nos richesses ici chez nous. Même pour tailler le diamant, lui donner la valeur. Paix à son âme. Mosé Laurent Désiré Kabila disait, on doit créer, au niveau là où il y a la CENI aujourd'hui, notre marché du diamant. Tout le monde avait craché sur lui peut-être. Et puis, les hommes politiques sont plus amis d'Israéliens, d'Indiens, des Congolais, des Rwandais, tout ça. Mais pas amis des Congolais. Quelqu'un qui vient avec des idées nobles sur l'exploitation de nos richesses. On le regarde à travers les prismes de tamissage des étrangers. C'est ça encore le problème. Faire une évaluation aujourd'hui, c'est bien. Mais avec quelle cote? Alors, ce que je peux ajouter, c'est quoi?
Mm-hmm.
On ne peut pas faire progresser le Congo par rapport à ses richesses si on ne crée pas un pool des intelligents qui peuvent réfléchir sur le Congo. Or, les hommes intelligents, dans un pays où on dit « chance et l'okopamba », tous les diplômés, on crache sur eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Même le système de proclamation dans nos écoles, on ne proclame pas par le don. On ne peut pas dire « voici ceux qui sont doués en physique ». Voici, non, on dit « voici le premier, voici le dernier ». Comment on peut? Il n'y a aucun pool de concertation. Souvent, je dis aux médecins, le système de santé, ça c'est un parallèle que je fais, est cassé par le médecin lui-même. Quand vous allez à la faculté de médecine, vous demandez les fils qu'on utilise pour coudre le ventre des opérés. Ça s'appelle comment? Ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas l'origine. Ils ne savent pas que le 4 cut, c'est le 4, c'est le chat, cut, c'est le chien. Ça signifie quoi? Un système de perroquetage. Ça ne peut pas faire développer le Congo.
Voilà, donc, oui, docteur Richard.
Tout est à refaire.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup, docteur Richard. On comprend. Vous dites que depuis 1960, jusqu'à maintenant, on a été distrait. C'est pour cela qu'on n'est pas arrivé à pouvoir déterminer, quantifier nos richesses.
Mais justement, on se querelle sur la Constitution.
Mais voilà, mais on oublie l'essentiel. Merci.
On se querelle sur...
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, docteur Richard. On se querelle plus qu'on s'occupe à créer l'intelligence et à former les gens qui doivent réfléchir sur l'exploitation de nos ressources. Merci beaucoup de ce point de vue. Et là, c'est un problème de la prise de conscience de tout le monde pour arriver vraiment à se pencher sur ces ressources et comment les exploiter. Merci beaucoup. Je rappelle encore à nos auditeurs que nous nous penchons sur la deuxième édition de la conférence sur les mines élargies aux ressources naturelles en RDC qui s'est clôturée à Goma. Nous avons Julien Paloukou qui est le gouverneur de la province du Nord Kivu, la province qui a accueilli cette deuxième édition de cette conférence. Mais ensemble, nous dégageons les pistes des solutions pour que l'exploitation des ressources profite réellement à la population. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droit du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Monsieur Julien Paloukou, je crois maintenant que la ligne doit être améliorée maintenant avec Goma. Vous avez suivi les quatre premiers auditeurs. Il y a plusieurs propositions. Je crois peut-être que vous pourriez nous dire si ces propositions rencontrent l'esprit des recommandations de cette conférence. Mais il y a aussi la critique sévère de Dr Richard qui pense qu'on a mis beaucoup de temps à se quereller, qui s'est penché sur la connaissance de ses richesses. Et Ernest, lui, pense qu'on connaît vraiment les richesses, mais le problème, c'est qu'il y a un problème de la volonté d'associer ceux qui sont spécialistes de l'exploitation pour savoir comment améliorer tout cela. Voilà, autant de propositions de nos auditeurs et vous qui avez participé et qui avez des recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs, monsieur Julien Paloukou?
Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Hein. C'est mieux. Oh, oui, on peut aller, c'est mieux maintenant, la ligne.
Oui, moi je suis bien suivi, monsieur Papy, monsieur Ernest et docteur Richard, qui ont abondé le sens de voir s'étonner comment les choses ne marchent pas. Mais à mon niveau, je crois qu'on a dépassé les stades d'accusation, les stades de dénonciation, les stades de stigmatisation, parce qu'on va dénoncer, on va accuser, mais les richesses vont rester endormies dans les sous-sols. Ce qui est important pour la conférence de Goma, c'est que le peuple congolais doit prendre conscience d'abord de ses richesses, c'est ce que j'ai dit au début, que nous ne connaissons pas nos richesses. Nous les avons étudiés à l'école, mais nous ne savons pas la valeur réelle de nos richesses. Et la première recommandation qui est ressortie de cette conférence, c'est qu'on doit créer un service qui aura pour tâche de devoir évaluer province par province les richesses du sous-sol, les richesses forestières, les richesses pétrolières, les richesses gazières, toutes les richesses, pour qu'on sache aujourd'hui le coût que peut représenter par exemple le Nord Kivu. Ça c'était la première recommandation, elle est la grande. Et pourquoi on a insisté sur cela? C'est parce qu'à chaque fois que des contrats ont été signés, eh bien, on a constaté que la République démocratique du Congo a souvent été roulée par des investisseurs qui, eux, connaissent mieux nos richesses que nous. Et donc, si nous créons ce service-là, qui va identifier nos richesses, leur donner une valeur, à ce moment-là, lors des négociations, nous allons être compétitifs et personne ne veut plus nous rouler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a recommandé à ce que, désormais, la sous-traitance se fasse par des entreprises congolaises. Parce que tous les investisseurs, lorsqu'ils arrivaient au Congo, avec leurs milliards de dollars, ils faisaient la sous-traitance de tous les petits services par d'autres entreprises étrangères, et les milliards qui étaient amenés au Congo retournaient encore à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'un entrepreneur arrive au Congo, il a l'obligation de sous-traiter tous les petits services par les entreprises congolaises pour devoir créer une classe moyenne. Il y a eu une autre recommandation importante, c'est la constitution d'un fonds souverain. C'est-à-dire, étant donné que les richesses naturelles sont épuisables, dans les 50 ou 100 ans ou 200 ans prochains, eh bien, elles vont s'épuiser ces richesses-là, et il faudrait que l'on constitue un fonds souverain qui est prélevé sur toutes les productions minières, pétrolières et gazières, de manière à ce que, lorsqu'on va arriver à un moment donné à épuiser nos richesses, que ces fonds puissent relancer le développement et puissent être comme une contrepartie de ces richesses qui seront épuisées. Voilà en bref les quelques recommandations que j'ai fait ressortir en ce moment, que l'on peut commenter avec les auditeurs qui me suivent en ce moment, bien entendu.
Oui, monsieur le gouverneur, mais si les auditeurs reviennent avec les accusations, parce que c'est la deuxième édition, il y a eu la première édition à Lubumbashi dans le Katanga, où le chef de l'État s'était aussi étonné, avait dit clairement qu'il y a ces problèmes de l'exploitation qui ne parvient pas à satisfaire le besoin de la population. Et là, je me rappelle en son temps, le ministre de Mines avait annoncé la création d'une structure qui devait en principe pouvoir surveiller, contrôler, pour se rendre compte effectivement que ceux qui exploitent payent les impôts, ils payent les taxes et les redevances, et que ces redevances sont dirigées dans les trésors publics pour que ça puisse résoudre le problème de la population. Et c'est pour cela qu'on peut avoir cet œil critique, parce que c'est la deuxième. Est-ce que cette conférence a eu l'occasion de pouvoir relever les lacunes de la première conférence, les mesures qui ont été annoncées dans la première conférence pour permettre d'améliorer, pour éviter, comme l'a dit notre ami de Matadi, qu'on ait encore une troisième et une quatrième, et qu'on oublie les recommandations de la première et leur impact sur terrain, et tout de suite peut-être qu'on n'aura pas des résultats.
Oui, moi je crois qu'il faut remercier le président de la République, parce qu'il a institué cette conférence, elle devra être annuelle. Donc il n'est pas dit que lorsqu'on s'est retrouvé à Lubumbashi à la première conférence, qu'on devait déjà tout épuiser. Il a estimé que, comme nous avons un problème très sérieux, la méconnaissance de nos richesses, il faudrait que chaque année, nous puissions organiser une conférence pour faire un état des lieux, pour évaluer les recommandations des conférences passées et pour nous projeter dans l'avenir. Je crois que c'est important que le chef de l'État ait permis aux Congolais de commencer à poser les problèmes. Parce que pendant 54 ans, comme a dit Dr. Richard, nous sommes restés en train de faire tout simplement la contemplation de nos richesses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas condamner le président de la République pour dire « cessons de contempler les richesses et commençons à les évaluer, à voir combien nous avons pour que nous soyons compétitifs sur le marché international ». Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que nous commencions à réfléchir, et là j'épouse le point de vue d'un des auditeurs qui a dit « on doit à travers ce genre de conférences commencer maintenant à associer les scientifiques congolais pour dire « vous êtes des spécialistes en géologie, vous êtes des spécialistes en minéralogie, vous êtes des spécialistes en ceci, donnez-nous votre contribution pour que nos richesses nous profitent ». Donc je ne pense pas que ce soit tard qu'aujourd'hui nous nous asseyons pour dire « eh bien, cessons de contempler les richesses, mais passons à une autre étape ». Celle de l'identification, de l'évaluation, pour que ces richesses profitent aux Congolais. Donc je crois qu'il y aura une troisième conférence, il y aura une quatrième, il y aura une cinquième, et peut-être au bout de 10 ans, à ce moment-là, nous aurons compris ce que valent nos richesses, ce que nous pouvons faire en termes de contrats, pour que nous ne soyons plus roulés toutes les fois. Et malheureusement, les Congolais, le problème des Congolais, c'est que lorsque vous demandez aux Congolais de faire une projection de 10, 15, 20 ans, tout le monde ne vous croit pas, parce qu'on est partisan de l'immédiateté, on veut tout de suite gagner aujourd'hui, profiter des richesses. Moi je crois que c'est très important qu'on puisse faire une prospective, qu'on puisse se dire, dans les 15 prochaines années, il faut que désormais toutes nos richesses puissent avoir un effet immédiat sur les effets quotidiens de la population. Mais dire que à la deuxième conférence déjà aujourd'hui, nous devons déjà produire ou avoir un impact sur nos populations, pour moi c'est trop tôt. Il faudra attendre peut-être 5-10 ans lorsque nous aurons fait un état des lieux complet. À ce moment-là, nous pourrions maintenant nous interroger sur pourquoi est-ce que nos richesses ne nous profitent pas.
Mais par rapport aux minerais, par exemple, vous rappellerez hein, qu'il y a eu beaucoup de débats, la société civile, il y a beaucoup de mandataires miniers qui ont pensé qu'il était mieux de qu'il fallait revoir les codes miniers parce qu'ils profitent plus aux exploitants, vous l'avez dit en introduction, aux exploitants étrangers qu'aux populations locales, parce que là, parmi les recommandations, je vois aussi qu'il faut promouvoir les dialogues entre les investisseurs du domaine des ressources naturelles et les communautés locales pour une meilleure appropriation des projets par celle-ci, et le code minier qui était tout le temps, on pense qu'il faut le revoir, et beaucoup d'observateurs pensent aussi qu'à Goma, on est passé à côté, il fallait vraiment insister sur la révision de ces codes miniers pour que cela vraiment puisse croiser cette volonté de voir l'exploitation des ressources profiter à la population. Mais quand je regarde les recommandations, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les 100 recommandations, est-ce que la révision du code minier a été une priorité pour cette conférence?
Oui, la révision du code minier a été l'une des grandes préoccupations. Je dois vous rappeler que le code minier au niveau du ministère est en train d'être révisé. Il ne reste qu'à présenter effectivement le projet à l'Assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup de cohérences, surtout que ce code est déjà inadapté étant donné qu'il a été élaboré avant la constitution actuelle parce qu'il date de 2002 alors que la constitution est de 2006. Je peux même rappeler qu'il y a des dispositions qui devraient changer par rapport aux compétences actuelles des provinces parce que le code minier lorsqu'il a été élaboré, il y avait une centralisation, il n'y avait pas de décentralisation. Maintenant qu'aujourd'hui il y a des gouvernements provinciaux, il y a des ministres provinciaux des mines, eh bien dans ce code on doit devoir départager un certain nombre de responsabilités pour qu'au niveau provincial on puisse par exemple attribuer des carrés miniers au lieu d'attendre que ça soit fait au niveau de Kinshasa. Donc le code minier a été recommandé que ce code minier soit totalement refondu. Il y a même déjà qui estiment que au lieu de faire une révision du code minier, c'est même important qu'on puisse faire un nouveau code qui ne tienne même pas compte de ce qui a été fait avant, qu'on mette en place un nouveau code minier pour devoir ramasser toutes les insuffisances qu'on a pu constater jusque-là, mais également faire profiter au peuple congolais nos richesses. Donc cela a été débattu parce qu'il y avait presque cinq panels qui s'occupaient des matières différentes et dans lesquelles on a abordé toutes les grandes questions. Donc les recommandations sont nombreuses, elles sont même plus de 100 parce que dans les 5 thématiques qui ont été éclatées dans cette conférence, il y a eu plus ou moins 20 recommandations dans chaque thématique, ce qui nous porte à plus de 100 recommandations qu'on devrait évaluer l'année prochaine.
Mais quand on parle de la promotion du dialogue entre les investisseurs du domaine des ressources naturelles et les communautés locales, si vous regardez les codes forestiers aujourd'hui qui prévoient cela, mais on sent de plus en plus que ceux qui investissent n'arrivent pas vraiment à respecter les cahiers des charges avec les populations locales. Mais là, Papi a insisté sur le régime des sanctions, sur les poursuites judiciaires pour tous ceux-là qui violent, parce qu'au-delà du fait qu'on puisse connaître parfaitement nos ressources, mais pour ce que nous exploitons déjà, s'il y a une faiblesse des contrôles, une faiblesse dans la surveillance, cela ne peut pas permettre à ceux qui sont exploités puissent profiter à la population. Avant d'écouter d'autres auditeurs, monsieur le gouverneur.
Oui, effectivement, on doit promouvoir les dialogues entre les investisseurs et les communautés locales, parce que l'objectif pour le gouvernement, c'est que lorsque des investisseurs viennent s'établir dans une contrée, il faudrait que la population environnante puisse sentir effectivement qu'il y a un projet à travers des activités sociales qui touchent directement à la vie des populations. Donc ça a été clairement recommandé et dans les codes miniers, il faudrait qu'on insiste là-dessus pour qu'on n'assiste pas à des villages dans lesquels on fait des prélèvements des minerais, des milliards de dollars sans que les populations locales puissent effectivement en bénéficier. Les contrôles doivent être renforcés effectivement, étant donné que on a constaté qu'il y a un enrichissement presque exagéré des investisseurs étrangers au détriment du peuple congolais. On doit renforcer le système et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a dit que au lieu que nous puissions exporter nos matières à leur état brut, la conférence de Goma a recommandé que pour augmenter la valeur ajoutée de nos minerais, que les traitements se fassent sur le sol congolais. Parce que nous avons reçu, par exemple, le représentant spécial des Nations, du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, qui nous a montré un téléphone qui est fabriqué par les coltans qui viennent de Kivu, mais dans une entreprise hollandaise. Et vous comprenez, ce sont les Hollandais qui jouissent des emplois, qui jouissent de tous les impôts, de toutes les taxes de cette entreprise, parce qu'elle est installée là-bas avec les minéraux qui sont produits au Kivu. Et donc, si on peut renforcer ce système-là de manière à contraindre tous ces investisseurs à pouvoir créer des entreprises de traitement des minéraux au niveau local, primo, ça va d'abord augmenter la valeur ajoutée de nos minéraux, secondo, ça va créer de l'emploi à tous nos jeunes gens qui pullulent dans la région et qui, malheureusement, se font recruter des mouvements rebelles à cause du chômage. Donc, c'est autant de questions qui ont été débattues et je crois que à la troisième conférence, on devra déjà évaluer ce qui a été fait et ce qui devra être fait pour l'avenir.
Nous avons Michel qui nous appelle de Matadi dans la province du Bas-Congo. Bruno est à Kananga. Je rappelle encore que Parole aux auditeurs échange sur la deuxième conférence sur les mines élargies aux ressources naturelles en RDC qui s'est clôturée à Goma le mardi dernier. Plusieurs recommandations pour que l'exploitation des ressources profite à la population. Quelles sont vos pistes de solutions pour y arriver? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Michel, vous êtes à Matadi, bonjour. Michel, bonjour. Apparemment, Michel, vous êtes avec nous, bonjour. Non, il y a des petits soucis sur la ligne de Michel, on dirait qu'il ne suit pas en ce moment. Alors, nous allons à Kananga, dans la province du Kassai Occidental. Bruno, bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot et les magiciens. Bruno Kalala, Kananga.
On vous écoute, Bruno. Quelle est votre proposition?
Moi, je voudrais un peu dire ceci. Le gouverneur du Nord qui vous met, Julien Paluku, doit garder la population. Parce que la guerre qui est aujourd'hui, qui est demain, qui se détériore là-bas au nord, c'est par rapport à cette richesse-là. Donc il serait mieux d'en prendre en compte, mieux les sécuriser, parce que cela nous amène aussi à un développement un tout petit peu qui est assez développé. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui nos téléphones que nous avons, autres machines que nous possédons ici au Congo, c'est à travers ces minéraux-là, c'est à travers les étains, les cobalt, les diamants et les cuivres. Donc il serait mieux de bien concevoir ça, à ne pas dégager, de faire les désordres, pas ça, et non...
Voilà, Bruno, on vous a suivi, vous avez fait les liens entre la guerre et l'exploitation minière. Je crois l'une des recommandations, la première même, je crois bien sûr ma liste, en ce qui concerne les ressources naturelles en RDC, je crois panel 1, on a beaucoup insisté sur assurer la paix sur toute l'étendue du territoire national, parce que quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas exploiter, et quand il y a la guerre, l'exploitation profite, n'est-ce pas? Il devient une exploitation frauduleuse, hein, et ça a été aussi la proposition dans cette conférence. Et vous avez demandé au gouverneur s'il y a moyen de pouvoir assurer la paix dans la province. Cela permettra que l'exploitation des ressources puisse profiter à la population. Merci beaucoup, Bruno. Michel, maintenant c'est bon. Michel, vous êtes à Matadi dans la province du Bas-Congo. Désolé pour la ligne de Michel. Je reviens à vous, monsieur Julien Paluku. Nous abordons maintenant la question qui touche bien sûr à la paix, hein, l'exploitation minière dans les zones en conflit. Vous avez suivi notre ami de Kananga a beaucoup insisté, mais revenons par exemple à la sanction, parce qu'on sait, quand vous l'avez dit, quand les jeunes gens sont au chômage, ils se font recruter facilement dans les groupes armés. Les groupes armés profitent pour exploiter toutes ces ressources, hein. Mais est-ce qu'on a beaucoup aussi insisté sur les sanctions, les poursuites judiciaires, la réforme, le renforcement de la capacité de la justice pour pouvoir traduire et juger tous ceux qui exploitent illicitement toutes ces ressources naturelles, que ce soit du côté de ceux qui prennent des armes comme de groupes rebelles, mais que ce soit aussi du côté des complicités s'il y en a au niveau de différents services, hein, qui gèrent l'exploitation des ressources naturelles, monsieur Julien Paluku?
Oui, exactement. On a insisté beaucoup sur la justice. C'est parce que les mécanismes qui étaient déjà mis en place, qui étaient certifiés par la CIRGR, qui est la Conférence internationale sur la gestion des Grands Lacs, c'est la mise en place d'un certificat de la CIRGL, de manière à ce que tous les minerais qui sont produits soient étiquetés. Et nous, en Nord-Kivu, on a déjà lancé le processus d'étiquetage qui s'inscrit dans la traçabilité, parce que les minerais qui sont produits ici servaient de plus en plus d'autres pays parce qu'ils n'étaient pas étiquetés comme provenant de la RDC. Et que donc, le premier élément, c'est l'étiquetage. Et ça, c'est une mesure importante de contrôle. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, la justice a été mise à contribution pour qu'à chaque fois qu'il y a une saisie des minerais qui veulent passer par des mailles des frontières à gauche à droite, on remonte la filière pour qu'on puisse arriver jusqu'à l'élément central qui est à la base de ce genre d'activités frauduleuses qu'il faut échapper des milliers et des milliers de dollars. Donc c'est la conférence de Goma a exactement recommandé que la justice puisse être totalement impliquée pour que des sanctions sévères puissent être faites à l'endroit de toute personne qui se trouverait être à l'origine de la fraude minière ou de l'exploitation illicite. Et cela réduirait davantage le banditisme. Mais également, au niveau inférieur, on a insisté sur les services de la police des mines, qui doit être présent, effectivement, ce service-là, dans tous les espaces où on est en train d'exploiter les minerais, pour réguler les comportements des personnes qui y vivent et prendre en charge les petites questions qui peuvent se dérouler dans les carrés miniers qui peuvent opposer les uns et les autres. Donc c'est autant de mesures que la conférence de Goma a pu prendre pour nous rassurer qu'effectivement nos minerais ne sont plus les minerais de conflit, ne sont plus les minerais de sang qui peuvent nous amener à être compétitifs, comme je l'ai dit, sur le marché international.
Nous allons écouter Papi qui est à Goma et Michel est ici à Kinshasa dans la capitale. Papi, vous êtes avec nous, vous êtes à Goma au Nord Kivu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à notre invité.
Vous avez suivi les uns et les autres, quelle est votre proposition?
Oui, ma préoccupation, je voulais juste poser à notre invité, parce que je me souviens, au temps ancien, le Crézet avait bénéficié beaucoup des choses de travail, par exemple les bêchers, les houes et d'autres situations, mais actuellement, on ne voit pas cela, on voit seulement des taxes, les gens qui viennent pour vous taxer là au chantier, donner telle taxe, on a reçu telle taxe pour les acheteurs aussi. Il faut $500 pour être reconnu officiellement. Mais pourquoi seulement tous ces dons sont diminués et on fait rigueur aux taxes surtout? Est-ce que cela peut améliorer ce secteur-là? Voilà un peu.
Et pour vous, vous posez le problème de l'exploitation artisanale. Hein. Vous dites que dans les temps, il y avait des organisations qui faisaient qu'on pouvait assister les créateurs, les exploitants artisanaux, hein, pour leur donner, par exemple, des bêches, leur permettre de pouvoir accéder pour créer des minerais. Mais aujourd'hui, c'est la tendance, c'est plus des taxes, des frais qu'on réclame aux acheteurs et aux créateurs artisanaux. Vous posez la question au gouverneur, est-ce qu'on peut penser à améliorer la situation dans ces conditions? Là. Merci beaucoup, Papi. Michel, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Michel. Qu'est-ce qui doit être fait?
Oui, ce qui doit être fait, c'est je propose ceci. Hein. En attendant, j'ai suivi M. le gouverneur lorsqu'il dit que nous avons la méconnaissance de nos richesses. En plus de ça, il dit parmi les propositions, on a demandé à ce qu'on puisse créer un service qui va évaluer le coût de toutes nos recherches. Alors moi, je suis en train de me poser la question de savoir, on va créer le service qui va évaluer nos recherches. Mais l'institut géologique qui se trouverait ici aux avenues des Tuileries, à côté des centres d'handicapés et des Mamayemo, à quoi sert ce service-là? Parce que moi, je sais qu'il y a des géologues, il y a des spécialistes là-bas. Est-ce que ce service-là n'a jamais maîtrisé à évaluer, n'a jamais maîtrisé les coûts, n'a jamais identifié les valeurs de toutes nos richesses? Alors, à quoi ça sert ce service-là? Pourquoi on a créé ce service-là? Parce que c'est ça, ce service qui devait, en principe, évaluer toutes nos richesses. Et ce service-là doit travailler avec le ministère des Mines. Alors comment expliquer que le gouvernement dit qu'on doit créer un service au moment où il y a un service de l'État. Parce que moi, je sais que ce service-là, c'est un service de l'État. Ça, c'est le 1. Le 2, moi, je sais que si aujourd'hui, nous ne parvenons pas, disons, les investisseurs, quand ils viennent ici, ils sont en train d'exploiter la population. Ça, c'est le gouvernement qui est responsable. Parce qu'ils sont en train de signer des contrats léonins. Il y a toujours possibilité les contrats là qui signent. À partir de ces contrats là, quand ils signent des vrais contrats, la population doit se retrouver. Alors je demande ceci, ce que moi je propose. Un, il faut tout d'abord que l'Assemblée nationale, ils doivent faire le contrôle. Nos députés, ils sont là seulement, ils disent majorité opposition. Ils sont là seulement pour booster l'argent des contribuables congolais pour rien. Parce que c'est ça. C'est eux qui devaient tout d'abord, si je suis le contrat qu'on est en train de signer avec les investisseurs expatriés. Ce sont ces députés-là qui devraient dénoncer tous ces contrats-là. Deux, le gouvernement encourage les unités. Il a global, parce que souvent, nous suivons, il a global, qui dénonce. Hein, il y a ici qui est en train de suivre la transparence sur les entreprises régénératrices de recettes. Mais il dénonce. Vous savez qu'il y a des milliards qui échappent. Mais le gouvernement n'a jamais sanctionné toutes les personnes qui détournent nos richesses. Ils n'ont jamais sanctionné. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont complices dans tout ce détournement. C'est pourquoi moi, je demandais. Hein, pour moi, les parlements, les députés doivent faire des contrôles. À partir de leurs contrôles, on doit sanctionner tous les détourneurs, tous les entreprises aussi qui sont en train de nous couiller. Voilà ce que moi je propose. Les services, je propose l'institut géographique qui est là. L'institut géographique. L'institut géologique.
Oui.
C'est un service qui est rattaché aux mines, qu'on travaille avec ces services-là pour évaluer toutes nos richesses.
Voilà, merci beaucoup, Michel. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous pensez que c'est pas opportun aujourd'hui de créer un autre service pour évaluer la valeur, les coûts de nos richesses, mais il faudrait plutôt travailler, renforcer l'institut géologique qui doit travailler en collaboration avec le ministère des Mines pour pouvoir fournir les éléments en termes d'études scientifiques et la valeur chiffrée pour nos ressources. Mais vous avez aussi proposé la responsabilité de gouvernants dans la signature des contrats. S'il y a des contrats léonais, c'est parce qu'il y a des gens qui portent cette responsabilité. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un contrôle parlementaire qui, par ricochet, dénonce et on passe au régime des sanctions pour tous ceux-là qui sont impliqués. Parce que vous vous rendez compte que c'est l'impunité qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas profiter de l'exploitation de nos ressources parce qu'il y a aussi des complicités. Voilà, en bref, votre intervention, Michel de Kinshasa. Nous allons revenir à notre invité parce qu'on va bientôt terminer cette émission et profiter aussi pour la conclure. Je crois bien, Monsieur Julien Paloukou, vous avez suivi les uns et les autres. Il y a aussi une préoccupation qui a été soulevée par notre ami Papi de Kinshasa. C'est la faillite, si on peut dire ainsi, des entreprises publiques en charge de l'exploitation de minières, par exemple. On parle de l'Amiba, on parle de la Gécamine. Quand on regarde ces structures aujourd'hui, ces entreprises aujourd'hui, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. La SNCC même, qui devait assurer les transports des minéraux qui sont exploités, on sait dans quel état la SNCC se retrouve aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec la faiblesse, la faillite de ces entreprises, c'est là aussi conduit aussi à la spoliation? Parce que le fait que la Gécamine n'est plus ce qu'elle était, l'Amiba, alors tout les privés qui voudraient bien exploiter d'une manière illicite en profitent pour pouvoir s'investir dans les domaines. Est-ce que la conférence a pensé aussi à la réhabilitation réelle de ces entreprises publiques qui ont beaucoup plus contribué au développement du pays en termes de recettes dans l'exploitation minière?
Oui, mais Monsieur Pierrot, je voudrais saluer les intervenants de tout à l'heure, ça va Monsieur Michel et Papy. Moi, je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que on ne peut pas interdire au gouvernement congolais de remettre en cause ses méthodes de travail.
Mm-hmm.
Si, après 54 ans d'indépendance, aujourd'hui, on se rend compte que, malgré la création des instituts géologiques, soit-ils, ou d'autres offices, on n'est pas arrivé, effectivement, à ce que le secteur minier ou nos ressources puissent produire, puissent avoir des effets sur les vies quotidiennes de nos populations. Je crois que c'est tout à fait normal que le gouvernement s'arrête à un moment donné pour dire, finalement, où est-ce que nous allons.
Mm-hmm.
Et c'est ça, l'essence de la conférence de Goma. On s'arrête pendant un moment et on dit, à quoi servent finalement nos ressources? Et quand on a fait cette évaluation, on trouve que il est important effectivement qu'au-delà des services qui existent, on puisse créer un service spécial, je ne sais pas comment on va l'appeler, spécifique, qui ferait recours à une expertise internationale.
Mm-hmm.
Ou par exemple, on sait que dans sous d'autres cieux, des pays ont recouru à des consultants internationaux pour faire ces évaluations des richesses, de manière à leur permettre de devoir maintenant demander des emprunts extérieurs en fonction de ce qu'on a. Imaginez-vous par exemple qu'aujourd'hui, quelqu'un vient signer un contrat sur le cobalt que nous avons dans une des provinces, et pour lui, comme nous avons des problèmes de budget, il nous propose $1 milliard, et tout de suite nous prenons les 1 milliard parce que nous avons besoin que notre budget puisse bénéficier de ce sort de souffle. Alors que ces minerais-là, lorsque l'étranger va les exploiter, ça va lui rapporter par exemple 10 milliards.
Mmh.
Voilà pourquoi la conférence a dit, au lieu de continuer à signer des contrats précipitamment, parce que nous avons besoin de moyens, on crée un service qui va évaluer toutes les richesses de manière à ce qu'un pays qui voudrait venir au Congo,
merci,
il dit, moi je vais exploiter l'or du Kivu,
mm-hmm,
je vais exploiter le coltan du Kivu, nous savons que notre or représente $2 000 milliards.
Mm-hmm.
À ce moment-là, on peut lui dire, monsieur,
merci,
vous nous faites $500 milliards pour nous permettre de devoir souffler et de devoir
voilà,
amorcer des projets vis-à-vis de nos populations.
Merci.
Voilà l'essence de mm-hmm cette conférence.
Mm-hmm. Merci beaucoup monsieur Julien Paloukou d'avoir accepté de débattre avec les auditeurs autour de cette conférence. Merci beaucoup, hein. Vous avez été en direct de Goma. Les auditeurs aussi étaient très nombreux. Merci de votre sympathique attention. Vous allez retrouver cette émission à 20h03 en rediffusion en FM, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci à J.R. Lungembo qui a coordonné et réalisé cette émission, mise en onde par Guy Manzangou. Ben Kabamba a assuré la supervision. Pierrot et la Meji vous l'a présenté. En ce moment, nous vous présentons bien sûr nos meilleurs voeux pour ce week-end, un agréable week-end en compagnie, bien sûr, des Radio Capi. Au revoir.